Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tous les entrepreneurs sont inquiets de l'opacité des semaines et mois à venir. L'économie est bousculée par l'épidémie du coronavirus et entre récession et inflation, il est difficile de savoir comment l'activité va évoluer. Quand on parle d'entreprise, on pense souvent à des PME ou des grands groupes, mais il y a aussi des micro-entreprises, des auto-entreprises qui sont de plus en plus nombreuses tant ces statuts ont été plébiscités ces dernières années. Comment ces indépendants, souvent fragiles, gèrent l'exposition à la crise sanitaire? Comment les entreprises adaptent leurs projets? Peut-on anticiper un plus grand besoin de flexibilité et donc d'indépendants? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Huguet, cofondateur de Malte. Malte, vous devez connaître, à mon avis, je réexplique en quelques mots, c'est une place de marché en ligne qui met en relation les entreprises et les travailleurs indépendants. Vous écoutez bien Culture Numérique, je suis Ambroise Carrière et je donne le top départ pour cette interview. Bonjour Vincent.
Bonjour Ambroise.
Comment as-tu pensé, réfléchi la crise sanitaire en mars? Tu as certainement réuni tes équipes, tu as forcément évidemment parlé avec eux. Est-ce que vous aviez imaginé le scénario que nous avons vécu là ces dernières semaines?
Non, mais écoute, moi j'ai vécu d'autres crises avant. Je me souviens de celle de 2008 en particulier, puis il y a très longtemps de celle de 2000. Donc oui, j'avais tout de suite prévenu les équipes qu'il allait avoir quelque chose, qu'on allait être hyper impacté parce que tout le monde arrête ses investissements, les choses sont un peu bloquées, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent dans l'économie, mais voilà, on est un peu en attente, en pause. Et effectivement, à ce niveau-là, on n'a jamais connu, moi de mon vivant, j'ai jamais connu, et on ne s'attendait pas forcément à ça. Mais quand on a commencé à parler de quarantaine, de confinement, là oui, on s'est dit comment on va continuer. Et donc nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on est habitué à travailler en remote, en télétravail, donc les choses se sont faites rapidement, mais on avait un peu, on anticipait un peu avec difficulté comment allaient réagir nos clients, en fait, qui sont eux beaucoup moins habitués à ça.
Peux-tu nous décrire l'impact qu'a cette épidémie sur l'activité du freelance?
C'est assez compliqué parce que, alors nous, on a la chance de travailler avec des entreprises dans plein de secteurs et plein de tailles, ce qui quelque part nous protège, nous, en tant qu'entreprise, parce que c'est réparti, le risque est réparti. Évidemment, les entreprises dans l'hôtellerie, dans le voyage, dans l'événementiel, ont arrêté totalement leurs investissements, ont arrêté d'ailleurs des projets qui étaient même en cours. Mais en fait, ce qu'on a vu et qui est assez intéressant, c'est que d'abord, la première semaine, on a eu à peu près 50% de baisse, donc baisse assez forte quand même, du nombre de projets, en particulier du projet qui sont démarrés par des PME. Nous, on a des centaines et centaines de projets tous les jours qui arrivent sur la plateforme. Donc tout de suite, il y a eu une baisse très forte. Et ça, moi, je l'explique d'abord parce que les gens, la première semaine, concrètement, comme je te disais, devaient se réhabituer à travailler autrement, à ne plus avoir un bureau, ne plus avoir leurs collègues, mettre en place les nouvelles connexions, les nouveaux outils. La plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à ça. Et assez rapidement, la semaine d'après, encore une fois sur les PME, on a évolué, on était plutôt à moins 30 et aujourd'hui on est à moins 15 et on sent là, avec la fin du confinement, qu'on revient sur des niveaux assez normaux. Donc ça, c'est assez positif. Et je pense que ça vient du fait que nous, les freelances, ouais, c'est des travailleurs du numérique, des indépendants qui travaillent dans des professions numériques, des développeurs, des graphistes. Beaucoup d'entreprises se sont dit « Ok, l'activité baisse, etc. » Mais c'est justement le moment pour accélérer sur notre transformation digitale, pour faire évoluer les projets. Sur les grands comptes, il y a de tout. Sur les grands comptes qui sont sur les secteurs impactés, évidemment, ils sont plus rapidement arrêtés. Sur les autres, on a été positivement, pas surpris, mais content de voir que les projets continuaient. Et c'est normal puisque DSI d'un grand groupe dans l'énergie ou dans l'assurance, finalement, eux-mêmes, avec leurs équipes, ont dû s'habituer et ont dû travailler autrement. Et les freelances, finalement, sont des gens qui savent faire ça et qui savent bosser à distance, qui ont peut-être même, en termes de culture, appris aux autres à le faire, ou même en termes d'outils. Donc, ils ont été nécessaires. Par contre, ce qu'on voit sur les grands comptes, c'est qu'il y a beaucoup de moins de nouveaux projets qui se lancent depuis le début du confinement, ça de façon très importante. Et je pense pourquoi ? Parce que pour prendre des décisions dans une grande entreprise, il faut être plusieurs, il faut à un moment se revoir dans une salle de réunion. Voilà, on est encore habitué à ça. Et je pense que là aussi, avec la fin du confinement, les choses vont reprendre assez vite parce qu'ils ont tous compris aussi que c'est maintenant, au contraire, qu'il faut accélérer la transformation. Mais c'est vrai qu'il y a eu un arrêt assez important des nouveaux projets sur les grands groupes.
Alors avec Malte, vous êtes quand même en première ligne pour observer la vie économique des freelances. Dirais-tu qu'ils sont résilients ou au contraire plutôt fragiles ? Là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en effet, ils sont capables de rebondir, qu'ils ont ça en eux en quelque sorte. Mais moi, j'ai dit aussi que leur structure, elle était petite, que potentiellement ils avaient du mal à encaisser les chocs. Alors, on met où le curseur ?
Bah, ce que je disais, c'est ce qui est important, c'est que et c'est pour ça que nous, on a été impacté sur le nombre de nouveaux projets, mais les projets qui étaient lancés ont continué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les projets qui étaient déjà en cours se sont poursuivis. Donc ça avait protégé une partie des freelances, en particulier les freelances qui travaillent en mission longue. Cependant, je pense que l'impact, il sera un peu plus, ça c'est assez clair, sur les missions longues qui n'ont pas démarré en mars, en avril, forcément ça va impacter le chiffre des freelances encore dans les mois à venir. Après ça, oui, ce sont des acteurs très résilients, c'est des gens qui sont habitués à passer d'une période où il y a beaucoup d'activité à une période où il y a moins d'activité, soit choisi, soit subi. Là, évidemment, c'est subi. Mais dans ces cas-là, c'est des gens qui savent se retourner, même, je dirais, personnellement, si tu veux, lorsque tu es employé et que tu passes à la non-activité ou carrément licencié, c'est quelque chose de très compliqué. Lorsque tu es freelance et que tu passes d'une mission à plus de mission, bah, tu t'habitues rapidement à repartir dans... je vais m'auto-former, je vais donner des conférences. On a lancé un programme d'ailleurs de Malte Academy où des freelances forment d'autres freelances ou des clients ou n'importe qui. Et donc tout de suite, c'est des gens qui savent se projeter dans autre chose et je dirais remplir le vide et préparer l'avenir. Parce que l'avenir, il est, je pense, les freelances le sentent et nous, on le voit en discutant avec nos clients, il est probablement positif pour eux. Alors, en ce moment, personne ne peut prédire l'avenir. Donc, est-ce que ce sera un avenir en juin ? Est-ce que ce sera un avenir en septembre ou en décembre ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont compris que la transformation digitale, encore une fois, ils devaient l'accélérer maintenant. Des nouvelles façons de travailler, ben, ils les ont vécues, donc ils doivent les continuer avec et encore plus accélérer. Et probablement avec des nouveaux partenaires sur tout ce qui est conseil et donc probablement aller de plus en plus avec des freelances.
Alors Vincent, on rappelle quand même, avec Malte, vous n'êtes pas une agence d'intérim, mais bien une place de marché. Donc vous faites uniquement support de mise en relation, on va dire. Une fois qu'on a dit cela, comment on décrit votre rôle lors d'une crise pareille auprès des freelances ? Est-ce que vous avez une sorte de responsabilité ? On sait qu'il y en a beaucoup qui vivent à travers les activités qu'ils trouvent sur votre site. Est-ce que vous leur devez un accompagnement ? Enfin, comment toi, tu décrirais le rôle de Malte ?
Alors, nous, on a effectivement, il y a pratiquement maintenant 200 000 freelances qui sont sur la plateforme en France, en Espagne, en Allemagne. On a plusieurs milliers de missions en cours tous les jours. Tous les freelances qui sont sur Malte ne travaillent pas en permanence sur Malte. Hein. Ils ont plein d'autres canaux déjà en direct pour trouver des clients. Alors, nous, on ne fait pas que la mise en relation. On fait aussi toute la partie paiement, facturation, assurance. Tout ça passe par nous et protège les deux parties, protège le client et le freelance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout de suite dès la première semaine ? C'est un, communiquer auprès de nos clients et en particulier clients grands comptes pour nous assurer qu'ils continuaient, comme j'en parlais, qu'ils puissent continuer les missions en cours et leur expliquer, voilà, il faut continuer, il faut protéger ses freelances et c'est justement maintenant qu'il faut accélérer sur ses projets. Et donc ça a été fait. Ce que l'on a fait par ailleurs, c'est qu'on a mis en place une page spéciale qui est covid19.mal.fr qui donnait des informations tout de suite, toutes les informations pour les freelances sur les droits qu'ils avaient, sur la façon de gérer un peu cette crise, sur ce que le gouvernement était en train de mettre en place. Troisième chose, on a tenu plusieurs webinars avec des centaines et centaines de freelances qui avaient plein de questions justement sur comment réagir, etc. Je pense que dans ces moments-là, justement, quand tu es freelance, tu es un peu tout seul, mais tu as besoin de sentir cette communauté. Et Malte est avant tout une communauté. Donc, ils avaient besoin d'échanger, ils avaient besoin de poser leurs questions, ils avaient besoin de comprendre ce qui a été mis en place par le gouvernement et autres. Donc voilà, donc on a donné beaucoup d'informations. Et puis dernière chose, on a mis en place, comme je disais, on a nous un programme en interne dans la boîte qui s'appelle Malte Academy, que l'on a ouvert à tout le monde à l'extérieur, avec des gens de Malte au départ qui ont formé des gens de notre communauté, et puis notre communauté qui a pris le relais et qui aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 10 000 personnes, même on doit être pas loin de 15 000 maintenant, qui ont été formées, et profiter pour justement interagir avec des personnes d'une autre façon et se former pendant cette période de quarantaine.
Continuons sur le sujet des responsabilités. Tu as décrit celle de Malte, mais évidemment, on peut penser au gouvernement. Il faut même y penser tout de suite. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont pris assez en compte les indépendants, ces ministres concernés par cette crise? Est-ce qu'ils ont été autant soutenus, assez soutenus, quand on le compare à d'autres acteurs économiques?
C'est difficile à dire. D'un côté, moi, je trouve que ils ont réagi très rapidement quand même sur plein de choses. Le fait que, et c'est, j'ai écrit une tribune en ce sens la première semaine justement du confinement dans les Échos pour justement dire les entreprises ont été, en particulier les grandes entreprises, ont eu accès à du crédit, ont eu accès au chômage partiel, donc elles avaient une certaine responsabilité sociale ou sociétale de protéger les missions freelance, de continuer les missions freelance, ce qui a été fait. D'autre part, le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité, donc qui verse jusqu'à 1 500 € par mois aux freelance. Alors, est-ce que c'est assez, pas assez? Ça dépend, parce que justement, c'est un fonds pour les indépendants. Et les indépendants, il y en a de toutes sortes, entre un VTC et un data scientist freelance sur Malte, c'est pas du tout le même niveau de revenu. Donc, forcément, ça compense pas. Non, ça, c'est assez compliqué. Et moi, je suis, en ce moment, on est en train de lancer l'Allemagne, je suis basé à Munich. Le gouvernement allemand a mis pour les indépendants, je sais plus si c'est 5 ou 6 000 €, enfin, un montant beaucoup plus important. Donc, on peut toujours dire, ça aurait pu être plus. Après, il faut le financer, c'est pas simple. Par contre, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce fonds de solidarité, qui est un peu une enveloppe prévue maintenant pour les indépendants en cas de force majeure, c'est peut-être quelque chose à réfléchir, à continuer, alors qu'il devrait être financé forcément par les indépendants eux-mêmes, ça sera pas magique. Donc peut-être qu'il y a une petite contribution que pourraient demain payer les autres entrepreneurs, les URL, etc., sur leur activité, qui alimenterait ce fonds de solidarité pour que, si prochaine crise, je ne souhaite pas être à venir, il puisse effectivement y avoir accès d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est des choses sur lesquelles nous, on discute effectivement aussi. Ça fait partie de notre rôle de discuter avec différents associations, syndicats, ministères, etc., pour réfléchir à comment on peut faire mieux les choses.
Alors, tu l'as dit, certains projets ont été stoppés, les projets de longue haleine, parce que en effet, on lance pas un grand projet quand on a zéro visibilité, qu'il y a une crise comme celle-ci qui s'abat. Pour autant, là, ça va reprendre, très certainement, et ça va reprendre avec la même difficulté de se projeter. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que les entreprises vont faire appel à plus de freelance, parce que eux, ils ont ça en eux, ça veut dire la flexibilité et la capacité d'encaisser un temps long, un temps où il n'y a pas d'activité. Est-ce que, on peut imaginer que les entreprises préfèrent, plutôt que de recruter en interne, de faire appel à plus d'indépendants?
C'est l'inconnu à court terme, c'est-à-dire à court terme, comment ça va redémarrer. Encore une fois, je pense que autant je crois beaucoup au travail en remote, autant je pense que les entreprises, pour avancer, ont physiquement quand même pas tout le temps et pas tous les jours de la semaine, je suis au contraire, je plébiscite beaucoup pour le télétravail, mais ont besoin de se voir, ont besoin de se physiquement se rencontrer. Je pense qu'ils vont se dire, ok, les choses sont reparties à partir du moment où on est physiquement au bureau. C'est symbolique, mais c'est important. Donc je pense que là, on va observer dans les semaines prochaines comment ça va se passer. Je pense que sur les PME, ça y est, on revient à des niveaux comme avant, donc ça c'est très positif. Sur les grandes entreprises, effectivement, je pense qu'ils sont un peu encore en attente, etc. Mais ça dépend. Il y a des gens, des DSI dans certains grands groupes avec qui j'ai discuté, qui se disent non, c'est justement maintenant qu'il faut qu'on investisse et qu'il faut qu'on aille plus vite, parce que sorti du voilà le moment de la reprise, il faut qu'on ait pu avancer sur des choses qui sont des tâches de fond, de développement de produits, développement de solutions un peu différentes chez eux. Donc pour par rapport à la concurrence, donc y a un peu de tout. Maintenant, à terme, je pense, et je sais pas quand est-ce que ce sera juin, est-ce que ce sera septembre ou après, je suis sûr que oui, les entreprises auront gelé probablement leur recrutement de façon assez top-down, unilatérale, et du coup verront les solutions de flexibilité. Ça, on l'a toujours vu dans les crises, et la flexibilité au début est impactée et après est utilisée, verront les solutions de flexibilité comme une alternative. Et je pense que cette fois-ci, là où d'habitude ils vont assez directement sur effectivement de l'intérim pour l'école bleue ou sur l'IT des ESN, etc., ils considéreront les freelances beaucoup plus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient très résilients pendant cette crise, qu'ils savaient travailler à distance, que finalement le rapport qualité-prix, je veux dire, est très bon, et que de plus en plus, ce qu'on voit, ça pour le coup depuis plusieurs années, c'est que souvent les meilleurs dans leur domaine, et en particulier dans les métiers du numérique, sont des freelances. C'est des gens hyper motivés, chefs d'entreprise, qui choisissent leurs projets, qui ont choisi cette indépendance et cette flexibilité. Donc c'est une vraie solution pour les entreprises pour se transformer.
Est-ce que le télétravail de beaucoup de salariés, ou du moins le fait que beaucoup de salariés sont maintenant en télétravail, pourrait les motiver à ajouter une activité à leur quotidien pro et se lancer dans le freelancing?
C'est une bonne question. Nous, on observe sur nos data, on a un peu moins de 10% des freelances présents sur Malte qui ont aussi une activité par ailleurs en tant que salarié. Mais c'est des choses qui tendent à évoluer. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Il y a même certains dirigeants de grands groupes. Souvent, c'est des fois les managers intermédiaires qui sont moins OK pour ça, mais souvent certains dirigeants qui se disent au contraire, c'est une bonne chose qu'un employé qui est là depuis 15 ans aille un peu s'aérer, aille un peu apprendre ailleurs et en même temps enseigner ailleurs aussi, faire profiter de ses connaissances, par exemple, à une PME, une start-up, etc. Donc, je pense que oui, on va commencer à avoir des... Là, on est en train d'adopter ou découvrir pour beaucoup de gens le télétravail, mais on va adopter effectivement la flexibilité, l'autonomie, la confiance, et on va se dire que peut-être le contrat de travail doit être un peu modifié ou un peu assoupli dans certaines entreprises où on peut avoir un salarié qui travaille, qui soit très motivé à fond dans son job et dans son entreprise, et pour autant utilise son temps perso, je sais pas moi, c'est RTT, ou choisisse de travailler 4 jours sur 5 pour faire du freelancing. Je pense que oui, on va commencer à avoir des choses comme ça, bien sûr. Parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas faites pour être totalement tout le temps 100% indépendants, et puis ça a une grande valeur d'être attaché à une marque, d'attaché à un projet, à une équipe, etc. Mais quelque chose de plus hybride, pourquoi pas? C'est la même chose avec le télétravail d'ailleurs, je pense. Autant le télétravail à 100% est quelque chose de très compliqué, parce qu'on ne crée pas de lien avec ses collègues, et puis la créativité vient aussi en étant au bureau, en se croisant un peu par hasard et en réfléchissant à un truc à la machine à café. Je pense qu'il faut des choses plus hybrides. Être tout le temps le matin à 9h, tout le monde dans sa voiture pour aller au même moment dans un bureau, dans une tour de la Défense, tous les jours, ça n'a pas de sens. À l'inverse, ne pas avoir du tout de bureau ou se retrouver, je pense que c'est aussi dommage.
Question certainement difficile, mais est-ce que Malte est adapté pour vivre, ou devrais-je dire d'ailleurs survivre, lorsque l'économie connaît un tel stop? Beaucoup d'entreprises essayent de revoir la copie. On parle de relocalisation, de sonder mieux les provenances des fournisseurs, revoir un schéma de distribution. Est-ce que vous aussi, vous avez cette réflexion de revoir en quelque sorte la copie pour se dire que si demain il y a un nouveau choc, vous êtes capable de le traverser?
On est une entreprise qui est une entreprise de forte croissance, qui est financée par le capital risque. Donc, on s'adapte très rapidement dans un sens ou dans un autre. Mais on a la chance, je dirais, d'avoir été moins impactés que d'autres, même si on l'est tout de même, hein, comme je le disais, hein, il y a quand même des nouveaux projets qui n'ont pas été lancés, donc ça va nous impacter sur plusieurs mois. On est moins impacté effectivement que si ces freelances étaient, comme ça peut être le cas dans un cabinet de conseil, nos propres salariés. Cependant, effectivement, dans ces moments-là, tu dois maintenir le bateau de façon assez agile et être adaptable pour passer cette période qui est un peu compliquée. Donc, on est beaucoup moins impacté que dans d'autres secteurs, mais on reste vigilant et on regarde effectivement toutes les options.
Allez, Vincent, un dernier mot pour nos auditeurs qui connaissent certainement eux-mêmes des bousculements ces dernières semaines, qu'ils soient freelance ou salariés dans le domaine du digital. Qu'as-tu envie de leur dire ?
Bon courage, c'est vrai que ça a été, moi, en particulier les deux premières semaines, ont été, il a fallu s'adapter à tellement de choses, réorganiser son fonctionnement interne, communiquer en externe avec nos clients, communiquer dans notre cas avec nos freelances, communiquer énormément avec nos employés. Heureusement, on avait l'habitude d'utiliser certains outils, mais ça fait pas tout. Je pense que maintenant, un message, c'est un peu, j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt avec nos clients, avec nos employés, parce que je pense encore une fois, parce que nous on l'a vécu, on le vit depuis plusieurs années, on travaille avec on est très ouvert sur le fait que les gens puissent travailler en remote. Mais on a vu des choses assez intéressantes. Par exemple, notre équipe à Lyon, qui est une équipe essentiellement tech, au début était tous à distance et puis les choses se sont faites à l'envers par rapport aux entreprises traditionnelles. Ils ont demandé à avoir un jour par semaine un bureau et puis après, si on avait un bureau pour y aller plus de jours par semaine. Et finalement, je pense, encore une fois, comme je disais, là, on a besoin de retourner au bureau. Alors avec toutes les précautions nécessaires, pas tout le monde en même temps évidemment, pour ne pas surcharger les transports, pas surcharger les entreprises, il y a des précautions évidemment qui restent à prendre. Garder les bonnes habitudes, ou garder ces premières habitudes pour les entreprises qui découvraient le télétravail, de pouvoir faire confiance aux salariés, pouvoir accepter le télétravail, mais un peu les deux. On a besoin de se retrouver aussi parce que sinon, je sens que c'est symbolique, mais on a besoin de physiquement se voir pour se dire, ça y est, c'est reparti, on y va, et on prend des décisions, et on avance, et on continue pas comme ça encore pendant des mois. Donc, je pense qu'il faut qu'on se retrouve, et qu'on y aille, et c'est en train, je pense, de se passer, parce que comme on voit qu'on peut retrouver nos amis, nos familles, etc., en prenant les mesures de protection, le boulot, c'est pas seulement un revenu, un salaire, des projets, c'est aussi du lien social et c'est super important aussi qu'on puisse se voir.
Merci Vincent pour tes réponses. Cette interview touche à sa fin. Le bon moment pour vous recommander de partager le podcast s'il vous a plu et n'oubliez pas de faire vous curieux sur le reste de nos épisodes avec notamment notre quotidienne qui fait la veille du numérique rien que pour vous. On est quand même sympa. Allez, à très vite sur siècledigital.fr et encore merci Vincent.
Merci.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.